La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez. Vous êtes au bon endroit pour découvrir des patronnes et des patrons qui font face à la crise, des initiatives. Et ici, c'est simple. On trouve des solutions et en plus, elles sont françaises. Ensemble, on en parle avec vous, Emmanuel Duteil, chef du service Économie d'Europe 1. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Elisabeth Assayag. Bonjour à toutes et à tous. Ils sont toujours restés ouverts et pourtant ils ont dû, eux aussi, se réinventer, s'adapter à notre nouvelle façon de vivre. Comment les hôtels s'organisent, tiens, cet été? On en parle avec Pierre-Frédéric Rouleau, le PDG de Louvre Hôtel Groupe. C'est notamment le propriétaire de Campanile et c'est notre invité jusqu'à 14h.
À la une, numériser le tourisme culturel, comme réserver la visite d'un musée ou d'un château. Le tout sur une plateforme. Eh bien, c'est possible grâce à Patrivia. Pas Patricia, Patrivia, une billetterie en ligne. On va la découvrir d'ici quelques minutes.
Depuis 40 ans, c'est le premier groupe mondial de l'enseignement du management de l'hôtellerie tourisme. C'est l'école hôtelière Vatel. Elle porte bien son nom et ce sera notre saga du jour dans La France bouge.
Chaque jour, nous découvrons le projet d'une entrepreneur ou d'un entrepreneur qui se lance. Un projet sélectionné avec notre partenaire, la CCI. Le pitch du jour s'appelle la flotterie, une solution de vrac en liquide. Nous découvrons tout cela vers 13h45.
Et puis demain, un emploi. Bah oui, on est vendredi. On a 20 postes aujourd'hui à vous proposer. Où ça? Vous commencez à en avoir l'habitude. Vous allez attendre la fin de l'émission pour le savoir.
Allez, La France bouge, c'est parti. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h.
La France bouge sur Europe 1.
Bien sûr qu'elle bouge cette France et qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de monde là sur les routes, dans les gares pour l'un de ses tout premiers gros week-ends de vacances. Et on va s'intéresser aux hôtels qui se sont renouvelés, qui se sont réinventés pendant cette période. Et on parle de tout cela jusqu'à 14h.
Bonjour Pierre-Frédéric Rouleau.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le PDG de Louvre Hôtel Groupe. En fait, votre groupe, hein, ce sont 1800 hôtels, un groupe qui existe depuis 1976. 1976, c'était le lancement du tout premier Campanile. Mais aussi, vous avez comme autre chaîne d'hôtels, vous avez Première Classe, Kyriade Hôtel, Golden Tulip, Royal Tulip. Alors, Pierre-Frédéric Rouleau, nous sommes vendredi, hein, vendredi 9 juillet, c'est la veille des départs des fameux chassés croisés. Ça y est, là, on est parti, on part en vacances. Certains reviennent déjà. Comment se présente l'été pour vos hôtels?
Alors, tous les hôtels qui attirent des clientèles un peu loisirs, c'est-à-dire qui viennent pour les vacances, qui est un des aspects de l'hôtellerie, puisque l'autre aspect, c'est les hôtels corporate.
Qui attirent donc pour le business entreprise.
Donc, sur l'aspect loisir, je dirais qu'on a vraiment un été qui se prépare, qui va être bon. Les réservations sont au rendez-vous. On fera peut-être même mieux que l'année dernière, qui était déjà une année qui était très très bonne. Et bien sûr, mieux qu'en 2019, puisqu'il y a plus de gens qui viennent visiter la France que dans les années précédentes. Donc le solde est positif sur la partie loisirs. Par contre, sur la partie corporate, là, ça sera le juge de paix, sera plutôt septembre.
Et ça représente quoi dans vos hôtels, la partie loisirs et la partie corporate, comme alors, vous dites, c'est-à-dire la partie entreprise?
En fait, ça dépend de la localisation de l'hôtel, hein, où il se situe.
Évidemment.
Par exemple, vous savez tous qu'à Paris, les hôtels souffrent beaucoup plus, étant donné qu'ils sont plus sur une clientèle corporate que sur une clientèle de loisirs.
Mais ce qui est très rassurant, c'est qu'on aurait pu se dire qu'en sortie du Covid, si tant est qu'on en sorte et qu'on n'a pas de quatrième vague avec le variant Delta, les gens privilégient plutôt une maison où ils sont ensemble ou ce genre de choses, mais les hôtels continuent d'attirer un public naturel?
Oui, ça c'est une raison, c'est déjà vous n'avez pas une maison partout, donc et l'hôtellerie elle s'adresse à toutes les clientèles et à toutes les bourses, je dirais. Et l'autre chose, ce Covid nous a fait comme une parenthèse un peu difficile, mais avant le tourisme était en croissance. Il n'y a pas de raison que si on trouve une solution pour juguler le Covid, on ne soit pas dans les mêmes tendances qu'il y avait auparavant.
Alors les hôtels, hein, Emmanuel l'a dit, hein, n'ont jamais été fermés pendant cette crise sanitaire. C'est ce qui fait aussi votre particularité, hein, dans votre secteur. Vous avez accueilli pendant la crise, au plus haut de la crise, au plus fort de la crise, des soignants, les services d'ordre, les personnes qui travaillent dans l'informatique, même des malades. Là, vous retrouvez finalement une activité plus classique. Ça doit vous réjouir, surtout pour votre personnel. Alors,
on a rien contre les catégories de clientèle
que
vous avez mentionnées.
Non, mais bien sûr, mais on était dans l'urgence.
Mais c'est vrai qu'on était dans un univers et une tendance qui était un peu paranoïaque, un peu pendant cette période de Covid dans les hôtels. Il fallait mettre des protocoles sanitaires assez lourds. C'était un petit peu compliqué parce qu'à la fois, vous avez vos clients, mais aussi les clients internes qui sont très importants pour moi. Il fallait leur dire comment se protéger pour servir les consommateurs pendant cette période. Ça, c'était pas évident. On est sur des populations qui sont entre 25 et 35 ans de moyenne d'âge dans les hôtels. Et donc là, il y a tout un travail de réassurance, de protocoles sanitaires à mettre en place, etc. Ceci dit, à votre question, moi, je suis super joyeux parce qu'on retrouve une activité normale, je dirais, et ça fait plaisir. Et rien que pour ça, ça valait le coup et ça donne une pêche et un dynamisme incroyable. Comme
Elisabeth,
votre émission.
Citez vos marques, hein, Campanile, Kyriade, Golden Tulip, Royal Tulip. Si on prend par exemple Campanile, ils sont aussi connus pour leurs restaurants souvent. Il y a des gens qui vont même uniquement déjeuner ou dîner chez Campanile. Là, vous avez aussi un retour.
Alors là, au niveau de la restauration, ça dépendait beaucoup des jauges. Et
Maintenant,
tout est élevé. Donc, on a relancé les terrasses, relancé l'activité et on commence à voir pas mal de clients. Donc ça fait plaisir parce que, comme vous l'avez dit, ce n'est pas simplement les gens qui restent à l'hôtel, c'est les clients de la zone de chalandise. Mmh. Notamment, par exemple, j'ai ouvert juste la veille du Covid. Un hôtel en plein cœur de Rungis, un Campanile de Rungis. Et là, on travaille avec le marché, avec les produits du marché, donc une offre un petit peu particulière sur ce Campanile, mais due à sa localisation. Et il est plein tout le temps. Donc, c'est vraiment que ça donne une envie différente.
Justement, c'est un des axes, ça, pour l'avenir, d'ouvrir encore plus ces hôtels et d'utiliser tous ces espaces, notamment de restauration, qu'on ait plus l'habitude, qu'on se dise, bah, tiens, ça peut être aussi sympa d'aller manger au restaurant dans les marques qui peuvent être les vôtres.
Et c'est surtout que ça améliore l'expérience client de l'hôtel, paradoxalement. C'est-à-dire que quand vous êtes client d'un hôtel, ce que vous cherchez, ce n'est pas rester dans votre chambre, ce n'est pas rester avec les autres clients de l'hôtel. Ce que vous cherchez, c'est des expériences avec aussi des gens qui vivent à l'extérieur dans la même zone de chalandise. Et donc, quand vous voyez sur un hôtel ou sur un restaurant que vous avez des clients qui sont des clients du coin, bah, ça vous rassure. Ça enrichit l'expérience et ça crée des moments inoubliables. Et c'est là-dessus qu'on travaille.
Je rappelle que vous êtes le PDG de Louvre Hôtel Group, qui détient donc notamment Campanile, Kyriade ou Première Classe. Elisabeth le disait très bien tout à l'heure, et vous aussi, ça y est, la clientèle touriste est là d'une certaine manière. Il manque la clientèle à faire. Ouais. Bon, on a la rigueur, on est en plein mois de juillet, c'est pas le moment où, dans tous les cas, vous en avez le plus. Qu'est-ce que vous prévoyez là-dessus pour septembre? Est-ce que ça va revenir?
Alors, je pense qu'on va avoir, on va souffrir en septembre quand même. Puisqu'il y a des changements de comportement, notamment sur des corporates qui vont utiliser beaucoup plus la visioconférence, moins se déplacer, moins utiliser l'hôtel,
ça, c'est
moins
votre crainte,
obligé.
Hein.
C'est pas notre crainte, c'est qu'il faut s'adapter à un nouveau changement. Ça existait avant. Hein. Il n'y a rien de nouveau avec le Covid. C'est des tendances qui existaient avant, mais qui ont été accélérées. Et donc, il va falloir qu'on anticipe, qu'on change un peu les produits, faire de l'innovation différente, pour pouvoir attirer ce genre de clientèle.
Alors, pardonnez-moi d'être un casseur d'ambiance, est-ce que vous êtes aujourd'hui plus inquiet qu'il y a ne serait-ce que quelques jours pour septembre à cause du variant Delta? En tant que chef d'entreprise, est-ce qu'à un moment vous étiez dit, bon allez, ça y est, on en sort,
on repart derrière, sur un truc
normal, est-ce que là vous commencez à vous dire, oula, il y a peut-être un scénario médian à mettre en place qui est peut-être moins favorable que ce qu'on imaginait?
Alors, c'est une question de nature, mais moi, c'est aussi une question d'information. Je suis patron monde de cette boîte et on a des hôtels partout dans le monde. Et on voit un petit peu comment certains pays s'organisent. Et il y a des pays qui sont un peu en avance par rapport à nous.
Vous êtes notamment très présent en Chine, puisque votre gros actionnaire
est chinois. Mais si vous reprenez des marchés comme en Israël, le variant va entraîner, bien entendu, un peu de tension, mais moins de décès, heureusement, moins de gens malades. Et donc, on rentre dans une logique où on va moins paniquer parce qu'on va avoir plus de certitude.
On va vivre avec le
virus.
Et on
va vivre avec. Mmh. Et quand vous vivez avec quelque chose, vous vous souvenez un peu, malheureusement, des attentats. Après, on retrouve certaine logique.
On tente de s'en prémunir, mais on continue de vivre.
Voilà. Pierre-Frédéric Rouleau, vous êtes le PDG de Louvre Hôtel Group. Comment les hôtels ont-ils innové pendant cette crise? On est en train de répondre à toutes ces questions. Vous êtes notre témoin du jour et vous restez avec nous.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Elle bouge, elle part en vacances dans les hôtels qui sont dans les zones touristiques. Il y a du monde et ça se présente même mieux qu'en 2019, c'est-à-dire un temps qu'on a tous oublié. Un temps où on n'avait pas de masque, où il n'y avait pas de pandémie. On pouvait se balader et aller au restaurant et à l'hôtel comme on le voulait. Mais on est en train de voir que ça repart. Et c'est sûrement ça le plus important. Et on en parle depuis le début de cette émission avec Pierre-Frédéric Rouleau, qui est le PDG de Louvre Hôtel Group. Alors si je vous dis ça comme ça, vous ne connaissez pas les marques. Mais si je vous dis Première Classe, Campanile, Kyriade, Golden Tulip et Royal Tulip, tout de suite vous vous dites, bah oui, je connais quand même.
Évidemment. Alors, réserver une visite dans un château ou dans un musée directement en ligne, hein, parce que ça aussi, on le fait pendant les... On profite du temps des vacances pour pouvoir visiter notre patrimoine.
Moi, j'adore le
château. Ah bah oui, je sais. Vous savez quoi le dernier que vous avez visité, tiens, Emmanuel?
Oh, bah, alors là, vous me mettez à une grosse colle, parce que depuis 2 ans, j'en ai... Bah, grâce à vous, le château de Versailles,
qu'on a pu
en voir
fait une très belle
en exclusivité.
Émission là-bas.
On était tout seul dans le château de Versailles.
C'était très agréable. Alors, figurez-vous que c'est possible donc de visiter un château ou un musée grâce à une plateforme où l'on peut donc réserver cette visite. Et c'est ce que vous avez mis en place il y a 5 ans, Christian Clark de Dromantin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général de Patrivia. Hein, je précise c'est bien que ce n'est pas Patricia, c'est Patrivia. C'est la première billetterie en ligne qui est dédiée au patrimoine. Elle existe depuis donc 2016. Vous l'avez créée avec votre associé, hein, tous les deux. Vous êtes des passionnés du patrimoine. Pourquoi ? Pourquoi vous avez créé cette entreprise ? Parce que vous êtes parti du constat que 99% des musées et des châteaux en France n'avaient pas de système de paiement en ligne. Alors là, vous vous êtes dit, il y a un vrai marché, on va le prendre.
Absolument. Donc ça, c'était des chiffres de 2017. On s'est rendu compte effectivement qu'il n'y avait aucune plateforme qui centralisait l'information. On n'y croyait pas trop au début, on ne comprenait pas. Et puis finalement, on a fini par la créer. Alors qu'il y avait plus de 30% des réservations dans le tourisme qui étaient réalisées par Internet en Europe. Et donc on s'est dit, mais il faut vraiment qu'on puisse réaliser cette plateforme pour permettre au plus grand nombre de participer à la démocratisation de la culture et du patrimoine et de pouvoir visiter les territoires et les beautés qui nous entourent.
Donc vous l'avez mise en place comment ? Comment ça marche tout simplement ? J'ai envie par exemple demain de visiter le château de Chambord, je fais comment ?
Vous allez sur Patrivia, soit vous cliquez par région, soit vous pouvez taper le château de Chambord et ensuite vous, en 3 clics vous avez votre billet que vous recevez directement par adresse email.
Mais c'était pas possible ça avant ?
Alors en fait il y avait des gros châteaux qui le faisaient, mais la plupart des lieux ne le faisaient pas.
Donc il fallait aller sur place, sinon on n'avait pas de moyen d'organiser sa sortie.
Voilà, absolument.
Parce que c'est ça finalement le modèle le plus intéressant, puisqu'on est allé avec Elisabeth pour préparer cette interview sur votre site, et c'est vrai qu'il y a même plein de châteaux, là, rien qu'autour de nous à Paris, dont on ne connaît même pas le nom.
L'existence.
Oui, c'est ça. Et grâce à vous, on va du coup directement avoir l'idée d'y aller. Et c'est l'intérêt, j'imagine, des propriétaires de châteaux et le vôtre de nous emmener dans des lieux moins évidents, d'une certaine manière.
Eh bien, en fait, on a besoin à la fois des lieux d'importance, comme Chambord, Chenonceau, le musée de l'armée, parce que naturellement, les gens vont penser à eux. Et puis après, une fois qu'ils auront pris leur billet ou qui sont sur le site, ils vont se dire « Mais tiens, ce château, il a l'air génial à côté, je ne le connais pas. » Et c'est intéressant de voir également que les grosses structures qui reçoivent jusqu'à 2 millions de personnes sont sur Patrivia parce qu'ils voient un intérêt majeur à être sur cette plateforme qui centralise le patrimoine.
450 lieux en France et en Belgique que vous avez référencés, qui sont aujourd'hui sur votre site.
On est à 570.
570, ben ça va encore plus vite.
Et on va arriver à 700 fin d'année, on aura 30 par mois.
Ah oui, mais ça va très vite, du coup, 30 par mois.
Oui, absolument.
Mais du coup, c'est les gens qui viennent à vous, là, maintenant que vous êtes connus. C'est un peu le bouche à l'oreille d'un château qui dit à l'autre, va chez eux, parce que grâce à eux, j'ai eu 10-20% de trafic en plus.
Bien sûr, c'est génial. Y a à la fois du bouche à l'oreille, mais bien sûr qu'après, on arrive à pouvoir sensibiliser les gestionnaires de monuments à la transition numérique pour leur permettre de toucher un plus grand nombre de personnes.
Mais alors, quand vous allez les voir, vous êtes une sorte de messie pour eux.
Eh bien...
Non mais c'est vrai, vous répondez à... Vous avez la solution pour avoir du monde. Et donc, s'il y a du monde, les châteaux, ils ont besoin d'être rénovés. Ça coûte très très cher. Donc vous accompagnez à cette rénovation, à la beauté de notre patrimoine français.
Tout à fait. Mais comme je le disais précédemment, en fait, c'est une industrie qui n'a pas encore été totalement digitalisée. Et quand on a commencé, on avait un vrai travail d'évangélisation sur les bienfaits d'Internet. Pour pouvoir apporter un peu plus de monde. Mais aujourd'hui, effectivement, on est extrêmement bien reçus et tout s'accélère.
Vous avez été, j'imagine, très impacté par le Covid, hein, puisque bien évidemment, on n'a pas pu aller visiter tous ces lieux d'exception pendant ce moment-là. Ou au contraire, ça a été un moment super pour vous, pour dire aux châtelains, regardez, au moins quand ça va rouvrir, moi, je vais vous apporter du trafic en plus, parce que les gens vont avoir un appétit de découverte, de retourner dans ces superbes lieux.
En 2020, on a fait un peu plus de 200% de croissance. On avait prévu d'en faire un peu plus, mais malheureusement, le Covid était là. Et en fait, effectivement, la crise a une conséquence d'accélération de la digitalisation, notamment parce
que dans tous les domaines, on le voit, nous, la France bouge, hein, que ce soit pour les vêtements,
quel que soit le secteur,
vous avez gagné au moins 5 ans. Aujourd'hui, il y a 10 salariés dans votre entreprise, 4 stagiaires.
Oui.
Vous allez vous développer, recruter?
Bien sûr, on prévoit une levée de fonds.
Bien sûr, comme c'était évident, c'est formidable.
Écoutez, on est là pour trouver des solutions et répondre à des problématiques, pour essayer de changer à notre échelle un écosystème qui a énormément de, qui a un grand futur devant lui.
Pierre-Frédéric Rouleau, je rappelle que vous êtes le patron de Louvre Hôtel avec des marques comme Campanile notamment. L'offre culturelle, bien évidemment, c'est quelque chose d'important pour faire vivre le lieu autour de vos hôtels. Il y a sûrement quelque chose à faire là, à proposer Patrivia dans chacun de vos hôtels à l'accueil pour qu'on dise tiens, il y a ça à visiter.
On travaille déjà d'une façon sans s'en rendre compte. On en a parlé en préparant l'émission tous les deux. On s'est vu en attendant. Et on a racheté une chaîne qui s'appelle Hôtels et Préférences, qui est sur des petits châteaux, qui sont sur des boutiques hôtels. Et cette chaîne utilise beaucoup, justement, tous les événements et tous les lieux culturels qu'il y a aux alentours. Parce que cette clientèle, un petit peu de boutiques hôtels, de châteaux, d'étrangers, etc., ce qu'ils recherchent, c'est la vraie France, c'est le terroir. Et si je peux me permettre juste sur ce point-là, je fais partie aussi de beaucoup de, notamment la CFET, sur l'excellence du tourisme en France et comment on peut améliorer l'attractivité. Et c'est ce genre d'opérations, de sociétés qui amènent justement plus d'attractivité parce qu'on n'est pas sur la Tour Eiffel.
Christian Clark de Dromontin, vous arrivez à faire entrer de nouveaux bâtiments en ce moment ?
Oui, absolument. Environ 30 par mois. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment très apprécié aujourd'hui.
30 par mois depuis le début de la crise.
Là c'est un peu baissé parce que la saison a repris, mais on va arriver à 700 fin d'année.
Merci à vous, ça s'appelle Patrivois. Grâce à vous, on peut visiter les châteaux, les musées en France. Merci à vous Christian Clark de Dromontin, vous êtes le directeur général de cette belle entreprise.
Et Pierre-Frédéric Rouleau, le PDG de Louvre Hôtel Group, vous restez avec nous, on va continuer à parler de ce monde de l'hôtellerie.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
La France bouge, innove dans l'hôtellerie. La crise a permis à ce secteur de se réinventer, de se renouveler. On en parle jusqu'à 14h avec notre grand témoin du jour, Pierre-Frédéric Rouleau, le patron de Louvre Hôtel Group. C'est l'un de nos plus grands groupes hôteliers aujourd'hui de France. Je suis sûr que vous ne connaissez pas le nom, mais une fois de plus, si je vous dis Première Classe, Campanile, Kyriade, Golden Tulip ou Royal Tulip, tout de suite, je suis certain que vous en savez plus. Juste avant de s'interrompre, on parlait de l'accueil, de l'amélioration de l'accueil. On critique souvent ça, notamment les étrangers, en disant « ils sont bien gentils, la France, première destination mondiale, mais alors ils ne font aucun effort avec leurs touristes ». Est-ce que pendant cette crise, vous, en parlant que de vous, vous êtes remis en question en disant « allez, pour les faire revenir, pour les faire rester plus longtemps, il faut qu'on s'améliore ».
Déjà, ce qui nous a beaucoup challengé, c'est les process sanitaires. Parce qu'il a fallu changer les opérations dans les hôtels et tout le monde le comprenait puisqu'il y avait cette pandémie. Et ça a été un vecteur de dire on ne va pas faire simplement mettre des plexis, parler à travers un masque, etc. On va en profiter pour essayer de retrouver ce qui fait le cœur de notre métier, un service avec le consommateur et une vraie interaction.
Ça se traduit comment ? Est-ce que vous avez des exemples ?
Oui, parce qu'en fait, on s'est très rendu compte que ces processus un peu sanitaires, un peu déshumanisé. Et donc, il n'y avait plus du tout la relation. On était obligé même de faire du room service pendant, à l'intérieur des chambres. Donc là, il n'y avait même plus de relation au restaurant ni au petit déjeuner. Donc, on perdait complètement cette chaleur. Et tout le monde a bien compris. Et après, c'est passé par des nouveaux process, des réassurances sur la qualité, beaucoup informer, beaucoup expliquer pourquoi on faisait ces process sanitaires, beaucoup leur donner tous les éléments d'organisation qu'on avait pu faire pour qu'ils partagent tout le travail qu'on a fait en interne pour les accueillir. Et là, ça crée du dialogue, ça crée de l'interaction, des petits gestes commerciaux, de l'eau, du thé, de partage, etc., qui permettent justement de retrouver ce qui manque le plus, c'est vraiment d'avoir une relation avec le consommateur.
Il y a aussi, avec cette période, il y a eu ces gestes sanitaires qu'il fallait vraiment garder dans les chambres. Il y a aussi tout le phénomène du télétravail. Alors, vous l'avez dit, pour votre clientèle business est absente en ce moment, mais il y a aussi des personnes qui ne peuvent pas forcément télétravailler à la maison, parce que télétravailler, ça demande du calme, ça demande de l'espace. Est-ce que vous aussi, vous avez mis en place, comme d'autres hôtels, des chambres dédiées à des espaces de coworking et de télétravail ?
En fait, on a profité de cette crise qui était un temps long pour tout changer, tout innover et amener plein de projets différents. Parce que personne ne sait quel projet va être un succès
à la reprise.
Donc en fait,
c'est toute option et puis on choisira.
Et on choisira comment ça marche.
Mais par exemple, l'exemple que disait Elisabeth, là, des chambres dédiées au télétravail.
Alors on a fait ça, c'est-à-dire des chambres qui se transforment en bureau ou en salle de réunion. Avec, on a deux formats. On a un format, on appuie sur un bouton, tout change. Le lit s'en va.
C'est génial
ça.
Et dans quelle marque ?
Là, on le fait sur Golden Tulip. On est sur Roissy, on a travaillé
dessus. C'est juste le fond d'écran.
Non, il remonte comme ça et ça permet. Il y a le paperboard qui descend, etc., etc. C'est un peu gadget, c'est un peu too much peut-être.
Bah non, regardez bah comment on est comme des enfants.
J'ai envie d'aller essayer. On va faire une délocalisation.
Là, j'ai eu la chance chez Golden Tulip.
Ouais, donc ça, j'ai eu la chance parce qu'on a beaucoup travaillé cette innovation en Chine aussi. Ce qui,
mais là, on rigole,
donc,
mais c'est des choses que vous avez.
Oui, c'est des choses qui
existent
et
qui vont perdurer.
Et qu'on met. Par exemple, ce qu'on va mettre, on va le mettre sur certains ouvertures ou rénovations d'hôtels, parce que c'est plus facile pour le faire. Et ça permet. On a aussi mécaniquement de pouvoir le faire. On a aussi réorienté nos lobbies. Nous, on a beaucoup travaillé depuis 10 ans pour avoir des grands lobbies. Au lieu d'avoir des petits lobbies, des espaces communs, on pense que c'est l'interaction avec le consommateur qui fait l'expérience dans l'hôtel. Donc, on a agrandi, on a agrandi, on a agrandi. Avec cette crise, on avait de la place. Et on avait de la place, on a pu privatiser certaines zones pour créer justement ces petits meetings informels qui pouvaient être faits.
Donc ça va être encore en place en septembre, hein, puisque vous l'avez dit, hein, c'est en septembre que vous allez vous prononcer en fonction de l'arrivée ou non de la clientèle business. Vous avez aussi amélioré vos chambres, hein, je crois que vous avez mis en place des chambres avec des salles de sport. Oui. Aussi, vous avez fait ça pendant cette période.
Alors, toujours pareil, essayer d'avoir des modules. À un moment, on ne pouvait plus avoir le gym club à côté de chez soi, etc. Et il y a une clientèle qui a besoin de faire du sport. Donc, il y a des chambres qui sont plus ou moins grandes dans un hôtel. Les chambres qui étaient les plus grandes, on a fait un partenariat avec Decathlon pour amener du matériel, des haltères, le gros ballon,
pour faire son
etc.
sport, mais individuel. Mais c'est formidable, on ne savait pas ça.
Et avec le miroir. Là, on l'a fait sur Campanile cette fois-ci, mais il va être à disposition de toutes les marques. Et en digital, des cours avec un coach de fitness soit 10 minutes, soit 20 minutes. Vous pouvez même faire du fitness avec quelqu'un qui est dans une autre chambre.
Parce que là, on est en train de s'extasier avec Elisabeth, mais c'est la douloureuse après ? Vous allez nous faire facturer ça combien ?
Alors, ces chambres, elles étaient déjà un petit peu plus chères, puisque généralement, elles étaient plus grandes. Donc, elles sont un peu plus chères, vous savez, il y a différentes tailles.
Mais c'est
10 euros de plus, parce qu'il y a beaucoup plus de nettoyage à faire entre chaque chambre.
Mais 10 euros de plus par rapport à quel tarif ? Parce que là, on dort
par
pas.
Par exemple, là, sur Campanile, c'est 60 euros, 70 euros.
Donc,
ça fait 10
euros
de plus, ce qui est très abordable. Et elles sont pleines tout le temps. Elles sont demandées, elles sont réservées à l'avance.
Et on les trouve dans quelle région, ces chambres ?
Vous en avez partout. Un peu partout, mais là, on les met sur tous les nouveaux hôtels. Oui.
Il y a un point extrêmement important chez vous, c'était une clientèle sur laquelle vous aviez énormément travaillé. On le rappelle, votre actionnaire principal est chinois du côté de Louvre Hôtel Group. Notamment la marque Campanile, et notamment ici en Ile-de-France, était un peu le point d'attache des touristes chinois qui venaient de plus en plus. Même si c'est encore une toute petite clientèle de tourisme, ça restait une clientèle en très forte progression. Et comment vous leur redonnez confiance, là, de venir en France ? Comment vous arrivez à leur dire, si tout est bien mis en place pour que le tourisme se passe bien ?
Alors, il y a plusieurs éléments. Je vais me laisser juste les développer. D'une part, c'est les visas en venant de Chine. Et donc, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, c'est que a priori, les voyageurs chinois vont revenir progressivement à partir du 1er janvier 2022. Donc, ça va permettre d'avoir...
Vous avez le temps de vous préparer, de vous organiser. En plus.
Donc, il faut préparer. La deuxième chose, il faut qu'ils connaissent vos marques. Et comme moi, j'ai eu un actionnaire chinois, j'ai commencé à développer mes marques en Chine. Et là, aujourd'hui, j'ai par exemple plus de Kyriad en Chine qu'en France. J'ai Campanile.
Il marche bien là-bas, soit
ça marche du feu de Dieu. Ça marche du feu
vous
de Dieu.
Vous avez aussi vos salles de sport individuelles et tout là-bas ?
Alors, pas partout, mais j'en ai quelques-unes sur Campanile, effectivement. Puisque c'est né là-bas, hein, ces chambres sport. Ouais.
Donc, ils vous connaissent.
Ils
ont une bonne nouvelle, ils vont pouvoir revenir.
Ils vont pouvoir revenir.
Et ont-ils envie de revenir ?
Il faut travailler commercialement avec les partenaires, puisque le tourisme chinois a beaucoup changé. Avant, c'était des groupes, maintenant, c'est du corporate individuel. Et il faut leur parler, c'est-à-dire avoir tous les éléments. Parce qu'ils ne parlent pas la langue, ils n'ont pas les mêmes TV, ils n'ont pas les mêmes radios.
Mais c'est vrai que vous étiez allé très loin. Par exemple, vous aviez dans tous vos hôtels des moyens de paiement adaptés aux moyens de paiement chinois, puisqu'ils payent notamment beaucoup en digital grâce à leur téléphone portable avec des applis bien, bien particulières à eux. Donc ça, vous arrivez à les faire revenir. Est-ce que la clientèle internationale en tant que telle, quand on entend par exemple Saccage Paris qui fait la une de certains journaux au Canada ou aux États-Unis, toute cette polémique sur le fait que la ville serait moins jolie aujourd'hui.
C'est un hashtag sur les réseaux sociaux.
Est-ce que ça a un impact ? Est-ce que ça complexifie le fait que Paris redevienne la première destination mondiale ?
Alors déjà, Moi, je pense qu'il faut mieux parler de l'attractivité de la France que de Paris, parce que Paris, c'est assez facile, puisque tout le monde parle de Paris. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il faut, faire un tourisme qui soit non pas un tourisme de masse, mais un tourisme vers le haut, c'est à la qualité, et qui soit dans le respect de ce qui se passe. C'est toujours pareil, c'est une question d'équilibre. Moi, j'ai fait une tribune sur l'overtourisme, parce que je suis très concerné par ça, je ne supporte pas. Et de faire venir les gens au même endroit et exclure les personnes qui habitent, parce qu'elles ne peuvent même plus rentrer chez elles, en vient à des trucs un peu fous. Par exemple, Venise, il y avait 300 000 habitants en 1945, aujourd'hui, il n'y en a plus que 30 000.
Ouais,
donc, 50 000. On fait des musées et les clients ne veulent pas voir ça. Ils veulent voir de la
vraie
vie.
Vous prenez un tourisme de qualité, Pierre-Frédéric Rouleau. Alors, chaque jour dans La France bouge, on se pose et on découvre l'histoire d'une marque, d'un endroit français qui ont traversé des générations, des histoires de famille aussi. Et aujourd'hui, je vous propose de découvrir une école essentielle pour notre pays. Notre pays qui est donc l'une des premières destinations au monde. Donc, il faut qu'on puisse avoir le niveau pour accueillir tous ces touristes. Cette école existe depuis 40 ans. Elle forme nos jeunes au métier de l'hôtellerie, mais aussi au métier du tourisme.
Oui, cette école, c'est l'école Vatel. Elle est présente aujourd'hui dans 32 pays à travers le monde. Et c'est notre équipière à nous, Charlotte Barrican de La France bouge, qui nous raconte cette histoire de Vatel.
Europe 1, La France bouge, la saga.
François Vatel était maître d'hôtel au XVIIe siècle. C'est lui qui organisait les fêtes et les banquets sous Louis XIV. Il était connu pour son excellence dans l'hôtellerie et son exigence dans le service. C'est le point de départ de l'idée d'Alain Seban, qui garde le nom de Vatel et crée en 1981 une nouvelle école hôtelière. Alain Seban, fondateur des écoles Vatel.
Dans les années 70-80, l'hôtellerie a changé complètement d'entreprise artisanale, c'est devenu une vraie industrie. Avec la venue des groupes qui se sont implantés en Europe et en France en particulier, le monde de l'hôtellerie a changé. Et il fallait aussi des professionnels différents qui connaissent parfaitement bien le management de l'hôtelier, la gestion, le marketing, les ressources humaines pour accompagner ce développement touristique qui était en train de se faire dans le monde.
La première école naît à Paris, puis une autre à Lyon avec à peine 20 élèves. Et en quelques années, l'école rencontre un immense succès et accueille aujourd'hui plus de 500 élèves par promotion et par école.
Aujourd'hui, c'est vrai que le groupe compte 55 écoles dans le monde. On est présent en Amérique, on est présent en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, on est présent bien sûr en Asie, en Afrique, on est présent partout. Et c'est vrai qu'on est venu nous chercher, c'est ce qui est assez incroyable. On n'a pas eu un système de volonté, de développement et d'ouverture d'écoles dans le monde. On est venu nous chercher en nous disant « Écoutez, vous avez des écoles, la formation que vous dispensez dans vos écoles, on veut dans notre pays les mêmes types d'étudiants, les mêmes types de professionnels. Alors venez nous dire comment vous faites. »
Chez Vatel, la moitié des cours sont des cours pratiques avec beaucoup de stages. On trouve aussi des cours de management, de gestion, de finance, mais également de langue, car un stage à l'étranger est obligatoire en deuxième année. Une réelle chance pour les étudiants. Ils peuvent alors s'ouvrir au monde et poursuivre leur cursus aux quatre coins du globe.
Je crois que l'endroit le plus incroyable, c'est à Kigali, au Rwanda. On a ouvert il y a 3 ans une école à Kigali, au Rwanda. J'ai eu la chance d'aller la visiter il y a 2 ans. Et c'est une ancienne élève de notre école de Lyon qui est directrice de cette école et qui a ouvert cette école. Et j'ai été époustouflé de voir les étudiants du Rwanda après tellement de drames dans ce pays, comment les étudiants ressortent forts, comment les filles sont fortes, comment les garçons sont forts et comment ils ont une envie de réussir comme je n'ai jamais vu dans les yeux d'aucun autre élève de toutes nos écoles. Ils ont une envie de réussir, comme c'est assez extraordinaire.
36 000 anciens élèves et 9 000 étudiants dans le monde aujourd'hui. Vatel est le premier groupe mondial de l'enseignement, du management et de l'hôtellerie tourisme. Alors, si vous vous sentez l'âme d'hôtelier, sachez que les inscriptions sont toujours ouvertes pour la rentrée 2021.
C'était Charlotte Barrican de l'équipe de La France bouge. On est avec Pierre-Frédéric Rouleau aujourd'hui, le PDG de Louvre Hôtel Group, qui a des marques comme Kyriad, comme Golden Tulip, comme Campanile. La formation dans vos hôtels, c'est bien évidemment capital. Vous nous disiez tout à l'heure, on doit améliorer l'accueil, mais ça passe par toujours plus de formation.
Toujours plus, et cette pandémie nous a aidés. D'abord, nous, on a utilisé un APLD, c'est-à-dire une activité partielle longue durée. On s'est engagé à ne pas licencier et à former. Et au même moment, on a ouvert une académie culinaire en Rungis, comme je vous en parlais.
En plein pendant la crise.
En plein pendant la crise, et en présentiel, et en online. et elle est complète jusqu'à la fin de l'année.
Est-ce que vous avez assez de personnel ? Puisqu'on sait que dans vos métiers, il y a beaucoup de gens qui se sont dit bah, bosser le samedi, le dimanche, dans la restauration, terminer parfois tard, régulièrement, et que bah, tous les personnels ne sont pas revenus. Est-ce que c'est le cas également chez vous ?
Comme j'avais fait cet APLD, il y avait un contrat moral avec, le personnel. Et comme on les a formés et on a beaucoup communiqué, on a eu moins de soucis que la profession en général. Ceci dit, au niveau de la profession, c'est quelque chose d'important. Et moi, je suis en plus responsable à CFET, la Confédération de l'excellence de la formation du tourisme en France. Et ce qu'on cherche à mettre en avant, c'est l'excellence de notre tourisme, l'excellence de nos écoles comme celle de Vatel, mais aussi de dire que l'hôtellerie-restauration, ce n'est pas un métier, c'est un parcours. Et qu'on peut avoir énormément d'expérience.
Et qu'on peut avoir derrière, effectivement, on peut monter. C'est encore ces métiers qui permettent de progresser rapidement.
Et bien justement, nous, on va regarder un petit peu avec vous, avoir votre avis hein, sur une entreprise qui est en train de démarrer. Pierre-Frédéric Rouleau, vous êtes le PDG de Louvre Hôtel Group et vous restez avec nous.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
La France bouge, moment fort également de notre émission. À chaque jour, vous en avez l'habitude, le pitch du jour de ces trophées Europe 1, chaque jour devant notre grand témoin du jour, en l'occurrence aujourd'hui, Pierre-Frédéric Rouleau, qui est le PDG de Louvre Hôtel Group. Et puis bien évidemment, il n'y aurait rien de tout cela sans notre fée à nous, Nathalie Carré, de la Chambre de Commerce et d'Industrie.
Et on vous le montre chaque jour dans la France bouge, des personnes qui osent se lancer dans l'entrepreneuriat aujourd'hui. Un projet lancé, figurez-vous, il y a à peine quelques mois, c'était en janvier 2021. Bonjour Priscilla Balestier.
Bonjour Elisabeth, bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Vous avez 37 ans, vous êtes la cofondatrice de La Flotterie. La Flotterie, c'est une solution de vrac liquide. La Flotterie toutattaché.com, hein, c'est votre projet, tout part de votre première grossesse.
Oui,
bah, tiens, vous allez nous dérouler votre pitch. C'est parti, vous avez une minute.
Aujourd'hui, seulement 29% des déchets plastiques sont recyclés en France. Du coup, on a à peu près 80 000 tonnes de déchets qui se retrouvent dans la nature chaque année. Donc, à l'occasion de ma première grossesse, quand j'ai vu les bouteilles en plastique s'accumuler dans mes poubelles pour faire les biberons de mon bébé, je me suis dit que la seule solution, c'était de réhabiliter la consigne. Du coup, avec La Flotterie, on a voulu créer un service de course en ligne sans déchets, grâce à des contenants consignés, pour vos courses de boissons, d'épicerie, d'hygiène et d'entretien. Mais aussi un service sans effort, puisqu'on sait que passer au vrac ou à la consigne est souvent contraignant. L'idée était de vous livrer à domicile et de récupérer les consignes vides à chaque nouvelle livraison. Et on propose également une option d'abonnement gain de temps, donc qui permet le renouvellement automatique de vos produits. Donc avec notre service, on a vraiment pour ambition de réduire d'au moins 50% tout ce qui est emballage ménager et surtout d'en finir avec le plastique.
Et ben voilà,
c'est
bravo,
très bien.
Vous avez tout à fait réussi tout ça. Alors, là, je ne peux pas vraiment donner le prix pour une fois, parce que ça dépend
produits,
vraiment
hein.
du produit qu'on achète.
Mais y a un petit peu
est-ce
tous
qu'on
les
peut avoir
prix.
Une petite idée quand même de combien ça nous coûte en plus quand on passe par des services comme les vôtres?
Ça coûte en général 30% à
D'accord.
peu près en plus.
C'est 5€ par mois en gros l'abonnement?
Alors l'abonnement c'est 5€ par mois, il est facultatif, donc c'est vraiment si vous voulez...
Est-ce qu'on peut acheter produit par produit sinon?
Voilà, vous pouvez acheter, vous faites en fait c'est vraiment un site de course en ligne comme vous avez l'habitude de faire. Sauf qu'effectivement, les produits sont dans des contenants consignés. Donc, il y a un coût de consigne, mais qui est remboursé à chaque fois que vous rendez la consigne. Et puis, le prix peut être un petit peu plus cher, effectivement, sur certains produits, mais pas sur tous. Sur un savon, on sera sur des prix qui seront les mêmes que dans n'importe quelle boutique.
D'accord.
Par contre, effectivement, sur des packs d'eau en verre de 12 bouteilles, on sera sur des prix plus élevés. Parce qu'effectivement, il y a toute une logistique derrière. Qui est très importante, que ce soit Nestlé Danone avec qui on travaille.
Qui vous font déjà confiance. Priscilla, chaque jour, Nathalie Carré, qui est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie, elle épluche les dossiers et les projets attentivement. Bonjour Nathalie, quelles sont les forces et les faiblesses de La Flotterie, s'il y en a
Bonjour Elisabeth, bonjour Priscilla, bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Alors effectivement, les points positifs, d'abord c'est idéal, le zéro déchet sans contrainte. On commande, vous livrez. Bravo pour les prix sur les produits courants, comme les pâtes par exemple, car bien souvent, on n'a pas d'emballage, mais c'est plus cher qu'avec. Très bonne idée aussi d'avoir mis en place une formule d'abonnement pour un renouvellement automatique de nos produits quotidiens. Alors, quelques points améliorés toutefois. En fait, ce n'est pas simple, car vous êtes déjà plusieurs acteurs à proposer du vrac consigné, si l'on peut dire. Du coup, pour vous différencier, il faut peut-être repartir de votre point de départ. L'eau et tout ce qui est liquide. Restez peut-être sur cette niche et poussez le concept au maximum, d'autant que la consigne pour les liquides, c'est une idée qui est poussée par beaucoup d'acteurs, donc vous pourriez surfer sur la vague. Pour un exemple de processus, à notre première commande, on vous donne nos contenants. Si on est zéro déchet, on peut être équipé. Ou si on débute, vous nous en louez. Ensuite, on commande 10 litres d'eau, 3 litres de jus de fruits, 1 litre de shampoing, etc. Vous remplissez nos contenants. Quand on a fini, on vous rend nos contenants vides, vous les remplissez de nouveau et vous nous les ramenez pleins. Ou bien on tourne avec 2 sets de contenants, un vide, un plein. L'idée, notamment pour garder des prix les plus accessibles possibles, c'est de vendre votre marque et vos choix de fournisseurs de produits liquides, que ce soit du vin ou du liquide vaisselle, plutôt que de vendre des marques que l'on peut trouver ailleurs que chez vous. On a tous l'image du laitier anglais qu'on a connu au collège pendant nos cours d'anglais. Vous pourriez c'est reproduire vrai. Cela. C'est Encore Brian, une fois, il s'agit de vous différencier des autres qui sont déjà très en avance pour pouvoir prendre votre place sur le marché.
Eh ben merci Nathalie, merci à vous Nathalie Carré, c'est toujours passionnant ce que vous nous dites. C'est intéressant, elle vous dit il faut revenir sur le point de départ, c'est-à-dire peut-être se recentrer sur tout ce qui est liquide.
Et ce qui est marrant, c'est que même nous, avec Elisabeth, quand on a préparé l'émission, c'est là-dessus qu'on a involontairement zoomé. Je m'en suis rendu compte quand derrière vous avez rajouté l'épicerie et tout, c'est comme si on l'avait oublié.
C'est vrai.
En disant, c'est ça
c'est
qu'on
ce
a trouvé
retient,
le plus nouveau.
Finalement. Vous en pensez quoi Priscilla ?
Oui, c'est une très bonne idée. De toute façon, l'idée de départ est partie de l'eau minérale, donc effectivement de la recherche d'une solution sur du liquide et sur un produit de très grande consommation. Donc effectivement, aujourd'hui, le liquide pour nous, c'est important. Et c'est vrai que ça doit être notre cœur de catalogue. Et c'est ce qu'on va chercher à développer et essayer de rajouter effectivement d'autres produits liquides, donc que ce soit sur la partie entretien, mais aussi hygiène. Et également sur tout ce qui est boisson, avec on voudrait rajouter du vin, de la limonade, des bières, etc. Donc... c'est un très bon conseil et on va le suivre.
Alors, l'avis d'un chef d'entreprise aguerri, Pierre-Frédéric Rouleau, notre témoin du jour. Vous êtes le PDG de Louvre Hôtel Group. Quel regard portez-vous sur la flotterie, la start-up de Priscilla ?
Deux aspects. La première, c'est qu'on est en pleine actualité puisque nous-mêmes, nous sommes en train de progressivement d'enlever le plastique. On est face aux mêmes problématiques qu'un particulier. Je dirais même que c'est un peu plus dur parce qu'il faut convaincre le client. Et toutes ces solutions, on est en train de les tester. Donc, si on trouve des partenaires qui nous aident, qui nous font gagner du temps...
Jusque, par exemple, à enlever la bouteille d'eau plastique dans vos chambres pour arriver sur ce genre de choses.
On est en train de faire des tests de consigne, par exemple. J'en parlais aussi, on est en train de faire de l'eau en carton qui existe dans certains marchés comme le marché anglais, qui est tout recyclable. La technologie n'est pas encore tout à fait en France. Mais tout ça, on sent bien qu'on en a besoin. Donc, elle surfe sur un marché qui est en pleine progression et en plus... Elle connaît bien son métier, donc ça c'est bien. Et elle est dans cette logique de progression, étape par étape. Là, ils ont commencé sur Paris, c'est formidable. C'est exactement comme ça qu'il faut faire.
Bah, donc vous validez, bravo. Franchement, ça c'est du conseil. Hein. Merci à vous en tout cas, Priscilla Balestier. Je rappelle que vous êtes la cofondatrice de la Flotterie. Merci à vous et donnez-nous de vos nouvelles.
Hélène, Nathalie Carré, on vous dit à lundi. Si vous aussi, vous voulez comme ça venir présenter votre entreprise, une seule adresse mail, e1-lafrancebouge@europe1.fr. Et vous aurez peut-être comme ça la chance de faire partie de nos candidates ou de nos candidats en route pour les trophées Europe 1 La France Bouge.
Pierre-Frédéric Rouleau, vous restez encore avec nous quelques minutes.
Europe 1, 13h, 14h.
Nous recrutons environ 1000 personnes avec ou sans expérience.
On a plus de 600 postes à pourvoir.
On va embaucher 15 000 personnes en CDI.
Tous les jeunes peuvent déjà aller sur notre site.
1000 CDI offerts, plus les alternants.
On cherche sur toute la France 3000 nouveaux collaborateurs dans notre organisation.
La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Et elle bouge notamment avec notre grand témoin du jour, Pierre-Frédéric Rouleau, le PDG de Louvre Hôtel Group.
Et demain, un emploi, parce que la France bouge soutient et accompagne les jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi. Aujourd'hui, nous avons 20 postes à pourvoir en CDI grâce à vous. Pierre Vandeneuf, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes le PDG de DV Group, vous intervenez en milieu industriel. L'entreprise existe depuis 1965. Vous avez plus d'une vingtaine de sites de production partout en France, mais aussi en Europe, 250 salariés. Et si vous êtes en direct, là en ce moment à 13h57 dans La France Bouge, c'est parce que vous avez 20 postes à pourvoir et ce sont des CDI.
Exactement, oui, tout à fait. Nous recrutons 20 collaborateurs, donc des profils techniques et des profils commerciaux. Aujourd'hui, DV Group est pleinement impliqué dans l'intégration des nouvelles technos et notamment dans l'industrie 4.0, l'industrie du futur, à l'usine du futur. Et nous recherchons aujourd'hui des profils pour nous aider à embarquer vers nos clients ces nouvelles technologies. Pour ça, donc, nous recherchons des ingénieurs ou des masters formés issus de formations du génie électrique pour assurer le développement de nouvelles offres 4.0, on va les définir comme telles.
Et vous avez du mal à recruter, j'imagine, là-dessus ?
Oui, bien sûr, puisque bah, évidemment, ce sont de nouvelles technologies. Évidemment, on a beaucoup de collaborateurs qui sont très, très motivés par ces nouvelles solutions, mais évidemment aussi, nous avons aussi des compétiteurs qui ont les mêmes objectifs que nous. C'est un vrai sujet pour l'industrie actuellement, et il est important pour nous d'intégrer de vrais talents, des gens qui ont une vraie motivation, une vraie ambition autour de la technologie, c'est ce que nous recherchons.
Et si par l'allemand, c'est pas plus mal, parce que vous recrutez en France et en Allemagne, c'est ça ?
Exactement, nous sommes aujourd'hui une entreprise européenne, nous intervenons évidemment beaucoup aussi auprès de nos clients industriels en Allemagne, en Espagne, en Italie, donc partout en Europe. Nous recherchons aussi évidemment du développement commercial, donc nous avons la volonté d'intégrer des commerciaux ou technico-commerciaux pour nos développements à l'international sur ces pays.
Eh bien super.
Pierre-Frédéric Rouleau, vous êtes le PDG de Louvre Hotel Group, notre grand témoin du jour. On recrute chez vous en ce moment, chez Campanile, chez Kyriat, chez Golden Tulip ?
Oui, parce qu'on est en croissance. On devrait faire à peu près autant de nouveaux hôtels que l'année dernière, 150 hôtels. Et donc, quand on est en croissance, 150 hôtels de plus, on a toujours besoin de recruter. C'est aujourd'hui 15 postes libres au niveau du siège et 70 dans les hôtels qui sont...
Comment pour postuler Louvre-Hôtel-Groupe.com ?
On est partenaire de la nouvelle plateforme dans l'hôtellerie des métiers qui permet justement de savoir exactement où on est. Jouer collectif là-dessus sur la plateforme de l'État.
Merci à vous, c'est la fin de votre émission. Merci à vous Pierre-Frédéric Rouleau, vous êtes le PDG de Louvre-Hôtel-Groupe. Emmanuel, nous, on se retrouve lundi et on va déménager.
Ouais, et on va déménager avec Demeco et je peux vous dire que là aussi, s'il y a un secteur qui cartonne, c'est bien celui-là.
Restez sur Europe 1 à lundi. Dans un instant, le flash avec Émilie Dez et Christophe Ondelat.